Bienvenue dans la collection Terre de Source, cultiver l'avenir.
Au fil de l'eau et des pratiques durables, une série de reportages radiophoniques réalisés avec le soutien de la collectivité Eau du Bassin Rennais.
Terre de Source, c'est un écosystème unique qui rassemble tous les acteurs autour d'un objectif commun, protéger la qualité de l'eau potable et valoriser des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.
6 épisodes pour découvrir comment se construisent des filières locales durables, comment la restauration collective s'engage, comment l'éducation à l'alimentation responsable s'invente et comment ensemble les acteurs du territoire créent un cercle vertueux où la préservation de l'eau rime avec alimentation de qualité et avenir partagé. Bienvenue dans Terre de Source, cultiver l'avenir, une série de reportages réalisés avec le soutien de la collectivité Eau du Bassin Rennais. L'objectif est de protéger la qualité de l'eau potable tout en valorisant les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. En Bretagne, la préservation de la ressource est un défi de santé publique majeur, car nos eaux de surface sont particulièrement vulnérables aux pollutions par les nitrates et les pesticides. Cet épisode nous plonge au cœur des luttes citoyennes et démocratiques pour la protection de ce patrimoine commun. Nous partons à la rencontre de Samuel, éleveur laitier bio, sur la commune de Baie. Cet éleveur revient sur la mobilisation historique de début 2026 pour défendre le Sage-Vilaine, le document qui définit les règles de gestion de l'eau sur notre territoire. Entre le témoignage d'enfants inquiets pour leur avenir et le récit du blocage du Parlement de l'eau, ce reportage explore les tensions actuelles entre décisions gouvernementales et souveraineté locale. Nous retrouverons ensuite Magali Grand, responsable du pôle protection des ressources à la collectivité Eau du Bassin Rennais, pour comprendre comment le label Terre de Source permet de continuer à agir concrètement malgré les moratoires et les incertitudes réglementaires.
Je suis ici parce que en fait c'est très important. L'eau, ça appartient à tout le monde. C'est pas qu'un problème paysan, c'est un problème de société. Donc moi je suis paysan, mais je suis content de voir que bah là il y a plein de gens qui sont pas paysans qui sont là.
Moi je pêche dans la Vilaine. Et ben en fait quand je serai grand, si ça, la Vilaine est pollue, bah il y aura plus de poissons, donc je pourrai plus pêcher. Et je suis aussi photographe animalier. Et par exemple, les martins pêcheurs, bah après, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de martins pêcheurs. Et voilà.
Pour vous, c'est quoi la différence entre l'eau il y a 50 ans et l'eau aujourd'hui ?
L'eau il y a 50 ans, on pouvait se baigner dedans et puis boire la tasse. Aujourd'hui, c'est risqué.
Et dans 50 ans, qu'est-ce que vous pensez qu'il y aura ?
J'espère qu'on aura encore de l'eau. Et potable. Ça, c'est pas sûr, mais j'espère. C'est pour ça qu'on est là.
On veut boire l'eau du robinet. Alors, allons, on préfère robinet. On veut boire l'eau du robinet.
Ces enregistrements, ce sont ceux de Samuel, éleveur laitier en bio en Ille-et-Vilaine. Il les a réalisés, accompagnés d'une bande de joyeux enfants, lors d'une manifestation organisée le 10 janvier dernier par plusieurs organismes, AgroBio 35, la Confédération Paysanne, Terre de Liens Bretagne, mais aussi Eau et Rivières de Bretagne. À peine sortis des vacances de Noël, 3000 personnes se sont rassemblées à Rennes pour demander la poursuite du Sage-Vilaine, dont la révision devait être votée au début de l'année 2026. Samuel est un des porte-parole de la Confédération Paysanne en Ille-et-Vilaine et il a participé à l'organisation de ces mobilisations. Je le retrouve quelques mois après dans sa ferme située à 40 km à l'est de Rennes.
Là, on va faire une tournée, c'est-à-dire je mets les 10 vaches et puis là, c'est là, les 10 sont prêts.
Direction la salle de traite où Samuel, les mains occupées avec ses bêtes, revient sur toute la chronologie qui a mené à ces manifestations.
Pourquoi il s'agissait de faire une révision du Sage, de changer un peu certaines pratiques, c'est parce que on a une eau en très mauvais état dans notre territoire. C'est ça l'enjeu, hein, qu'il ne faut pas oublier autour du Sage. C'est vraiment ça la question. Est-ce que demain, on va réussir à avoir une eau potable ? Le Sage-Vilaine, qui est donc le plus grand Sage de France, avec près de 11 000 km², sur ces 11 000 km², seuls 6% des masses d'eau qui sont en bon état, morphologique, écologique et biologique.
Le Sage-Vilaine, c'est donc le document qui définit qui peut faire quoi et comment avec les eaux du bassin de la Vilaine. Un document qui devait être renouvelé début 2026 par la commission locale de l'eau, la CLE. Mais depuis le 10 décembre dernier, cette instance est bloquée.
La CLE, la commission locale de l'eau, qui devait se tenir à Châteaubourg en décembre 2025, devait voter la révision du Sage-Vilaine. En gros, ça devait être l'aboutissement de 3 ans et demi de travail autour de la révision du Sage-Vilaine, des nouvelles règles édictées avec tous les membres, les plus de 70 membres de la commission locale de l'eau qui représentent toutes les strates de la société. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la FDSEA et la CR, mais surtout la FDSEA qui a fait une démonstration de force en mobilisant il y avait peut-être 200 personnes. Donc une manifestation qui a bloqué une commission locale de l'eau.
3 jours après ce blocage, le 13 janvier, le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce un moratoire immédiat sur toutes les décisions liées à la politique de l'eau.
Un moratoire sur l'eau, alors ça aussi c'est incroyable, mais qui restait aujourd'hui légalement à l'état de tweet. Ça n'a pas été nulle part publié dans le journal officiel. Donc il n'y a aucune légalité dans l'application de ce moratoire. Dès la CLE suivante, donc en début de cette année, les services de l'État étaient absents. Ça voulait dire qu'il n'y avait pas le quorum et que la CLE ne pouvait plus travailler. Bah, elle s'est réunie quand même et puis elle a essayé d'avancer, mais voilà. Je mets un post-trempage, donc un produit à base d'acide lactique.
La révision du Sage-Vilaine a donc de facto été stoppée par le gouvernement et la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Or, Samuel me le rappelle, ce blocage va à l'encontre de la loi dite « loi de l'eau » du 3 janvier 1992. Cette loi reconnaît l'eau comme patrimoine commun de la nation et surtout, elle prévoit que les décisions de gestion de l'eau soient prises à l'échelle locale. C'est par elle que les CLE ont été instaurées. Les CLE, qu'on appelle souvent les parlements de l'eau et qui doivent produire les sages. C'est donc la suspension de ce processus démocratique, pourtant prévu par la loi, qui a poussé différentes organisations, comme Eau et Rivières de Bretagne, mais aussi des députés, à protester depuis début 2026. Je demande à Samuel, qui lance la traite de son deuxième groupe de vaches, de revenir en arrière et de m'expliquer ce qui avait été négocié dans le nouveau Sage-Vilaine.
Dans cette révision du Sage-là, était question donc de cette fameuse règle 1 autour de l'usage des pesticides, mais également, il y a un gros point sur la protection des peu de zones humides qui nous restent. Dans la révision du Sage, il y a la règle 1 qui concerne l'interdiction des herbicides sur les aires d'alimentation de captage les plus sensibles. Donc ça concerne 5 zones et qui sont des aires d'alimentation de captage sensibles parce que ultra polluées. Et donc il s'agissait sur ces périmètres-là d'interdire donc les herbicides, mais avec tout un régime dérogatoire. C'est pour ça que c'est une règle quelque part symbolique. Donc in fine, ça représentait une très faible part en termes de nombre d'hectares. Quoi. C'est le jeu du débat, de la démocratie, c'est insatisfaisant, mais n'empêche que ça avait le mérite d'exister, d'aller dans le bon sens, de pointer ce sujet des pesticides, et surtout de protection des zones humides, des zones d'expansion de crues. On peut parler aussi c'est pour protéger la population des inondations, c'est ça aussi le Sage-Vilaine.
La traite du matin touche bientôt à sa fin, la matinée aussi, et Samuel me parle de la première manifestation organisée, le point de départ de notre discussion.
On a organisé au pied levé, quasiment en quelques jours, une manifestation en réaction à cette indignation qu'on a ressentie qu'un préfet où il a permis ce blocage de la commission locale de l'eau et le blocage de l'aboutissement de ce dossier-là. C'était un succès, plus de 3000 personnes, pour dire à quel point c'était choquant qu'avec 200 tracteurs, on arrive à bloquer la souveraineté d'un peuple, parce que c'est ça qui s'est passé en fait, hein, à travers la commission locale de l'eau, c'était toute une population qui s'exprimait.
Depuis, malgré une tribune de scientifiques rennais et une demande du président de la région Bretagne de permettre l'aboutissement du travail de la clé, pas de nouvelles du gouvernement ni de la préfecture. La clé ne peut toujours pas entériner de décision et les négociations semblent suspendues pour de bon. La traite du matin est finie pour Samuel, mais pas le dossier du sage Vilaine. Le 28 avril, les députés ont commencé à examiner la proposition de loi agricole du gouvernement. Son article 6 propose que les préfets et préfètes puissent déroger aux règles fixées par un sage. Mais Samuel, lui, reste plutôt optimiste.
Bah encore une fois, moi je suis plutôt optimiste sur le fait que ce dossier-là, ça choque tellement, c'est tellement caricatural comme situation, que ça a le mérite de mettre sur la table le dossier, pas seulement des pesticides, mais aussi de protection des zones humides et de notre système agricole en général, de notre démocratie, de notre santé, de notre eau.
Et les organisations syndicales et citoyennes restent engagées. L'association de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest, la Confédération paysanne ou encore Eau et Rivières de Bretagne prévoit d'organiser une nouvelle manifestation avant le début de l'été.
Voilà, ce reportage nous a montré l'urgence de protéger une ressource en péril où seuls 6% des masses d'eau du bassin de la Vilaine sont aujourd'hui considérées en bon état. Comme le souligne Samuel, le blocage de la révision du sage Vilaine par un moratoire gouvernemental constitue un coup d'arrêt pour des mesures symboliques, comme par exemple l'interdiction des herbicides dans les zones de captage les plus sensibles. Pourtant, la nécessité de changer de modèle agricole reste entière pour garantir la potabilité de l'eau et la santé des habitants. C'est là que le dispositif Terre de Source prend tout son sens. Plutôt que d'attendre la réglementation, ce dispositif mise sur le volontariat des agriculteurs et sur une compensation économique pour sécuriser leurs revenus lors de la transition. Mais comment construire une filière équitable entre la ville et la campagne? Quel est le véritable pouvoir du citoyen consommateur dans ce système? Magali Grand, qui pilote cette politique de protection au sein d'Eau du Bassin Rennais, nous explique comment ce cercle vertueux s'organise pour préserver notre or bleu tout en soutenant l'économie locale.
Bonjour Magali Grand.
Bonjour.
Vous êtes responsable du pôle protection des ressources de la CEBR, la collectivité Eau du Bassin Rennais. À ce titre, vous pilotez l'ensemble de la politique de protection de la ressource en eau pour Terre de Source. Pour rappel, le label Terre de Source est un dispositif mis en place par Eau du Bassin Rennais pour aider et promouvoir les bonnes pratiques agricoles en Ille-et-Vilaine par la valorisation des productions et par l'accès à de nouveaux débouchés comme les restaurations collectives du territoire. Cela se traduit notamment par une labellisation, mais aussi par le soutien de nouvelles filières et de nouvelles cultures comme celle du sarrasin. Alors, qu'entend-on par bonnes pratiques agricoles? Il s'agit de celles qui prennent soin de l'environnement et de l'eau potable grâce à un mode de production plus vertueux qui utilise le moins possible d'engrais azotés, de nitrates, d'antibiotiques pour ce qui est de l'élevage et de pesticides afin d'épargner les zones de captage des eaux distribuées aux particuliers en Ille-et-Vilaine. Magali Grand, comment est née Terre de Source?
Alors, Terre de Source est née dans le cadre d'actions de protection de la ressource en eau, justement avec les agriculteurs. C'est des actions qu'on menait déjà depuis quelques années. Et les agriculteurs nous ont régulièrement dit que changer leurs pratiques n'était pas évident quand il n'y avait pas de compensation économique derrière. Et c'est de là qu'est née l'idée de faire deux choses. Déjà, de pouvoir accompagner économiquement les agriculteurs qui changent leurs pratiques. Et d'autre part, d'arriver à faire un lien entre les agriculteurs et les consommateurs d'eau et de produits qui sont en ville. Donc de faire ce lien un petit peu entre la ville et la campagne, en le basant aussi sur la question économique. Et c'est à ce niveau-là qu'on a commencé à réfléchir aux différents moyens à mettre en œuvre pour que les agriculteurs qui protègent la ressource en eau, qui protègent l'environnement, qui protègent la biodiversité, puissent vendre leurs produits à un tarif qui est équitable pour eux, et qu'ils puissent faire cette bascule de changement de pratique au sein de leur exploitation.
Alors peut-être pour les plus réfractaires, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le système agricole doit-il être repensé pour garantir la potabilité de l'eau, en tout cas sa non-contamination?
Alors en Bretagne, les eaux elles sont contaminées par les nitrates, c'est ce dont on entend le plus parler et depuis le plus longtemps, et par les pesticides. Pourquoi est-ce qu'on entend parler, surtout en Bretagne, depuis le plus longtemps? C'est qu'on est sur des eaux qui sont principalement des eaux de surface. Donc dès qu'il y a une contamination, une pollution, on va avoir les effets directement dans l'eau. Ce qui est plus élargi dans le temps lorsqu'on a des eaux souterraines. Donc en Bretagne, c'est la raison pour laquelle on en parle depuis le plus longtemps, et c'est aussi pour ça qu'il y a des actions qui sont mises en place depuis maintenant les années 90 sur ces paramètres-là. Donc les nitrates, les pesticides aussi, parce que les pesticides sont utilisés par la plupart des agriculteurs qui sont en conventionnel. Seuls les agriculteurs en agriculture biologique n'en utilisent pas. Et ces pesticides ont un impact fort sur l'eau, puisqu'on en retrouve une bonne partie dans l'eau. On va retrouver les molécules elles-mêmes, mais aussi les molécules de dégradation. Et c'est donc un problème de santé publique que d'avoir des pesticides dans l'eau.
Vous l'avez dit, c'est compliqué pour les agriculteurs de changer. Comment fait-on évoluer les pratiques agricoles? Comment accompagne-t-on les agriculteurs, agricultrices, pardon, qui voudraient changer leur production?
Alors, en termes d'accompagnement, on entend changement de pratique. Le changement de pratique, il se fait pas automatiquement. S'il le pouvait, la plupart des agriculteurs n'utiliseraient pas de pesticides, par exemple, parce que ça a un impact aussi sur la santé, leur santé, sur la santé de leurs enfants. Mais un agriculteur, c'est d'abord quelqu'un qui doit produire pour avoir un revenu. Et donc, dans ces conditions-là, il faut pouvoir proposer à l'agriculteur un système qui fait que son revenu sera conservé, qu'il ait la certitude, l'assurance que son revenu sera conservé. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on travaille, par exemple, qu'on a pu développer le programme Terre de Source, et de pouvoir lui assurer qu'il va diminuer l'utilisation de ses pesticides, qu'il va pouvoir diminuer les engrais azotés ou phosphatés qu'il va apporter sur son exploitation. Mais en contrepartie, peut-être qu'il aura une petite baisse de rendement, mais derrière, on lui achètera son produit un petit peu plus cher, en expliquant aussi derrière au consommateur pourquoi ce produit est plus cher. Parce qu'on est bien sûr une chaîne de valeur qui va de l'agriculteur jusqu'au consommateur. Et donc, il faut bien que tout au long de cette chaîne, on comprenne pourquoi les prix sont différents de ceux qu'on peut voir ailleurs.
Alors malheureusement, un moratoire du gouvernement Le Cornu vient de bloquer le SAGE anti-pesticides de la Vilaine, SAGE pour schéma d'aménagement et de gestion des eaux. C'était une décision assez inédite, prise par la collectivité territoriale et destinée à interdire l'empoisonnement de l'eau potable par les produits phytosanitaires utilisés dans l'agriculture. Ce projet local qui visait donc à limiter l'usage de certains pesticides, notamment utilisés sur le maïs à proximité des captages d'eau potable, avait déclenché de vives tensions entre l'État et les collectivités territoriales. L'État a tranché. Comment avez-vous reçu cette nouvelle?
Alors c'est vrai qu'une commission locale de l'eau, dans le cadre du SAGE, c'est une commission, on l'appelle aussi le Parlement de l'eau, c'est-à-dire qu'on met autour de la table toutes les personnes qui interviennent sur le territoire. Et donc cette clé du SAGE Vilaine a travaillé pendant plusieurs années pour arriver à cette proposition qui vise à protéger l'eau, mais à protéger derrière le consommateur aussi. On est bien, comme on le disait, sur quelque chose de très global avec un enjeu santé publique derrière. Donc effectivement, lorsqu'on arrive au bout du processus et puis qu'on a des solutions qui sont validées par les associations de consommateurs, mais aussi les agriculteurs, les communes, et que ce projet est arrêté, ben forcément on est frustré. Parce qu'on voit qu'une des solutions quand même de pouvoir limiter l'utilisation des pesticides, c'est quand même de pouvoir arrêter leur utilisation. Simplement commencer à diminuer l'utilisation de pesticides sur les terres agricoles, ça veut dire avoir un impact moindre sur la qualité de l'eau. C'est aussi mathématique que ça. Et donc tant qu'on en utilise beaucoup, on en retrouvera beaucoup. Donc effectivement, c'est principalement une frustration. Et après, on se dit que cette proposition-là, elle a été choisie dans un cadre vraiment de co-construction. Et donc, on peut que imaginer que cette co-construction, elle ne va pas retomber complètement et qu'avec le temps, on arrivera à faire évoluer les choses.
Ben justement, on va parler du temps. Vous aviez l'ambition d'essaimer le projet Terre de Source à d'autres territoires pour répondre aux enjeux de l'eau au global. Ce coup d'arrêt va sans doute retarder vos projets. Vous savez pour combien de temps ?
En fait, le moratoire ne va pas avoir d'impact sur le projet Terre de Source en lui-même et sur le fait de l'essaimer sur d'autres territoires. Tout simplement parce que c'est un projet qui est vraiment basé sur le volontariat des agriculteurs. Et donc les agriculteurs, les 150 agriculteurs qui aujourd'hui sont engagés dans le programme Terre de Source, n'attendent pas de la réglementation pour diminuer leurs produits phyto ou leurs pesticides et n'attendent pas de réglementation supplémentaire pour pouvoir valoriser leurs produits. Donc autant... Le moratoire va avoir un impact sur tout ce qui est réglementaire, mais sur tout ce que les agriculteurs font de leur propre chef de manière volontaire, ça va pouvoir continuer et on va pouvoir continuer à montrer justement qu'on peut travailler en agriculture en limitant les sources de pollution en azote ou en pesticides. Donc le projet Terre de Source, il continue sa vie. Sur le territoire de Rennes, Rennes Métropole, globalement aussi en Ille-et-Vilaine, sur le territoire mayennais, au niveau de La Rochelle, au niveau du Grand Paris jusqu'à l'exutoire de la Seine, on a aussi des structures qui s'engagent pour pouvoir développer Terre de Source sur leur territoire. Donc on est plutôt dans une dynamique positive face à ce type de projet.
On a parlé de la collectivité Eau du Bassin Rennais, de son label Terre de Source, des agriculteurs agricultrices de l'État, qui bloquent donc une partie de ce dispositif vertueux. Qu'en est-il des consommateurs consommatrices ? On les a un peu évoqués. Quel est leur rôle dans ce système global ? Ils sont à la fin du processus. C'est de reconnaître le label Terre de Source et de se dire « j'achète plus cher, certes, mais je mange mieux ».
Exactement. L'impact du consommateur est vraiment très important sur l'économie. On le dit souvent, mais c'est important de le rappeler. Les choix qu'on l'on fait en tant que consommateur quand on fait nos achats du quotidien a un impact sur les choix qui sont faits au niveau des agriculteurs. Donc déjà le fait d'acheter des produits en agriculture biologique va permettre aux agriculteurs biologiques de pouvoir continuer à vivre et à se développer. Et de même pour les agriculteurs qui sont labellisés Terre de Source, leurs produits labellisés Terre de Source, lorsqu'on fait le choix de ce produit-là, eh bien on sait déjà qu'il est local. Donc on participe aussi à l'économie locale de l'agriculteur, mais aussi de toute la chaîne de valeur dont on parlait tout à l'heure. Et puis il a un impact positif sur la qualité de l'eau. C'est un label. On entendit souvent dire qu'il y a beaucoup de labels et qu'on peut s'y perdre. Au contraire, quand on n'a pas assez d'informations, on se dit qu'on manque d'informations et qu'on a besoin d'informations. Et quand on a de l'information, on se dit qu'on en a trop. Les labels, c'est vrai qu'il faut savoir les lire, les décrypter, mais comme toute étiquette. Et savoir décrypter les différents labels pour comprendre pourquoi ils sont bons, soit pour l'environnement, soit pour la santé, pour certains, ça fait partie aussi de notre rôle de consommateur.
On sait que Terre de Source, les produits Terre de Source se retrouvent aussi dans les restaurations collectives du territoire et notamment dans certaines cantines scolaires. Vous informez les parents d'élèves qui sont donc consommateurs à travers leurs enfants. Est-ce que vous avez des retours sur la possibilité pour leurs enfants d'avoir des produits Terre de Source ?
Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs communes qui sont engagées à acheter des produits Terre de Source pour leur cantine scolaire. Les produits Terre de Source sont comptabilisés dans la loi Egalim. Donc en fait, ça fait partie des produits que les communes peuvent acheter pour respecter la loi Egalim. On va avoir différents types de produits qui vont être labellisés sur les menus. Et puis, on va aussi faire des ateliers dans les écoles pour travailler peut-être avec une agricultrice, par exemple, pour travailler avec les enfants sur le fromage blanc, sur les yaourts, des choses comme ça, qui permettent de faire comprendre aussi aux enfants d'où vient l'alimentation de leur cantine et de se reconnecter aussi, je parlais de ce lien urbain-rural, de se reconnecter aussi avec ce qu'est la réalité de l'agriculture. Et effectivement, ça, ce sont des ateliers qui permettent aussi aux enfants de pouvoir parler aux parents et de pouvoir faire remonter l'information sur le label.
Alors, on parle de plus en plus souvent d'or bleu pour évoquer l'eau potable. Dans certaines régions du monde, des conflits autour de son accès ont déjà lieu. Je pense notamment à l'Euphrate et au Tigre au Moyen-Orient. Plus proche de nous, en Ille-et-Vilaine, l'eau potable est un enjeu crucial. Comment en faire prendre conscience aux habitants, aux Brétiliens, Brétiliennes, aux Rennais, Rennaises, que c'est un bien collectif que nous devons absolument protéger dès maintenant?
C'est vrai qu'on a beaucoup parlé ici de qualité de l'eau, mais l'importance de la quantité d'eau, de l'utilisation de l'eau, des économies d'eau est aussi fortement importante. On sait par exemple que sur le bassin rennais, à l'horizon 2030, la population va augmenter de 10 à 15% et pourtant il faut qu'on arrive à garder une production d'eau potable qui soit identique à celle d'aujourd'hui. Donc ça veut dire une diminution de la part de chacun des habitants d'à peu près 10%, 15% de la consommation d'eau, de manière à pouvoir maintenir cet objectif. Et cet objectif, c'est pas juste un chiffre en fait, c'est vraiment quelque chose qui est très important, parce que l'eau, c'est quelque chose de fini et on doit pouvoir la protéger et ne pas la surconsommer. Donc effectivement, avec les épisodes de sécheresse qui deviennent de plus en plus fréquents, on doit chacun prendre conscience de l'impact de notre consommation d'eau aussi et de pouvoir trouver les moyens de les diminuer. Donc c'est des choses qu'on essaie de que l'on fait à la collectivité Eau du Bassin Rennais. Il y a un programme qui s'appelle le programme Éco d'eau et qui vise à pouvoir équiper, par exemple, chacun des habitants du secteur de mousseurs d'eau pour pouvoir consommer moins d'eau à la maison, lutter contre les fuites d'eau, travailler bien sûr aussi avec les industriels sur la réutilisation de l'eau. Voilà, il y a beaucoup de pistes et un petit peu comme sur la qualité de l'eau où il faut que tout le monde en prenne conscience et que tout le monde avance et que tout le monde change ses pratiques, sur la consommation d'eau aussi, sur les économies d'eau, là aussi c'est aussi bien les hôpitaux, les universités, les collectivités que les grandes entreprises ou les particuliers qui doivent faire cet effort de diminuer de 10 à 15% leur consommation.
Oui, on pense souvent aux consommateurs à la maison, mais il y a effectivement toutes les infrastructures privées ou publiques qui nous entourent et qui sont grandes consommatrices d'eau. Merci beaucoup Magali Grand pour cette interview.
Merci à vous.
Vous venez d'écouter un reportage de la collection Terre de Source, cultiver l'avenir, réalisé avec le soutien de la collectivité Eau du Bassin Rennais.
Une production des radios adhérentes à la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne, à retrouver en ligne sur le site corlab.org.